prenez quelques minutes pour lui. Donnez-lui un 10 secondes d'ovation dans ce lieu ce soir. Consacrez ce lieu à Jésus. Déjà avant de vous asseoir, tournez-vous à 4 ou 5 personnes et dites-leur, Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce soir. Allez, dites-le à quelqu'un. Merci à l'équipe d'adoration, c'est magnifique. Quelle joie! C'est ça qui arrive avec des Français. On dit, dites à quelqu'un, Dieu va faire quelque chose dans ta vie et vous commencez à raconter votre témoignage. Quelle joie d'être avec vous ce soir. Je veux prendre un moment. La Bible nous met en garde contre les lèvres flatteuses, mais nous dit de donner honneur à qui honneur est dû. Et ce soir, je veux remercier le Seigneur pour toute l'équipe qui nous sert si magnifiquement, l'équipe de Paris-Bastille et toute l'équipe d'adoration, de louange, l'équipe vidéo. Wow! Magnifique! L'équipe de bénévoles, il y a plus de 150 bénévoles qui servent depuis tôt ce matin jusqu'à ce soir. Ils sont magnifiques! Merci à chacun. Merci pour la vision, la foi. Nous avons sur Montréal organisé certaines de ces conférences. C'est des pas de foi immenses. Et nous remercions le Seigneur. Nous croyons qu'il y aura un fruit éternel à ces quelques heures. Ensemble, nous déclarons déjà ces jours comme des jours de défaite pour les royaumes des ténèbres, de défaite pour tout ce qui est infernal et tout ce qui est mal. Et nous déclarons ces jours des jours de victoire pour le roi des rois et pour le Seigneur. Seigneur Jésus. Déclarez, allez, applaudissez la victoire de Jésus avec moi. C'est une grande joie d'être avec le pasteur Carter Conlon et son épouse Teresa. Nous venons du Québec tous les deux et nous avons été à partout dans le monde ensemble. Et c'est un privilège pour moi d'être aussi avec eux sur New York. Et c'est un frère que j'aime et que j'admire énormément. Et son épouse qui est à la tête d'un centre de formation magnifique où il y a un fruit spirituel tellement puissant. Et combien croient avec moi que Dieu lui a donné une parole pour nous? Dieu lui a donné une parole pour nous. Nous remercions le Seigneur pour cette parole. Et par la foi, je crois que c'est les dernières années où je vais venir comme traducteur pour Pasteur Carter. Il prêchera en français lui-même bientôt. Est-ce que c'est une église où les dons spirituels sont là? Dieu donnera le don d'interprétation et le don de... C'est une joie d'être avec vous en ce jour particulier. En France, en ce jour du 8 mai, où il y a des commémorations. Aujourd'hui, les Champs-Élysées étaient bloqués pour un moment, des commémorations partout en France. Le 8 mai 1945 est la date de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Ce jour, vous savez, ce jour est appelé par les anglophones le VE Day, Victory in Europe Day, et c'est un jour où nous honorons les anciens combattants. Et s'il y a des anciens combattants dans ce lieu, ce soir, nous voulons vous honorer, nous voulons vous remercier pour votre service. Partout où je vais prêcher en France depuis 20 ans, je rencontre encore des anciens combattants et des familles d'anciens combattants. Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment pour les honorer ce soir? Mais j'avais à cœur, alors que je voyais toutes ces commémorations à travers la France, j'avais à cœur ce soir d'honorer les anciens combattants spirituels, les pères et les mères dans la foi. Si vous venez à l'église Nouvelle Vie sur Longueuil et vous entrez dans les bureaux, nous avons un artiste peintre qui fait des portraits magnifiques et vous avez sur les murs plusieurs portraits de pionniers de l'œuvre de Dieu francophones, anglophones aussi, notre frère David Wilkerson et plusieurs autres, mais des frères francophones aussi, le frère Locossette, le frère Scott et plusieurs autres qui ont été des pionniers. Et nous le faisons parce que nous avons eu des milliers de jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur à Longueuil et nous voulons qu'ils sache que nous entrons aujourd'hui là où d'autres ont semé, ont pleuré, ont jeûné, ont semé leur vie. Et ce soir, j'avais à cœur de faire ceci. Et j'aimerais simplement vous dire, je sais que la plupart des pères et des mères dans la foi, affectueusement, les papis et les mamies dans la foi, n'aiment pas être reconnus, aiment demeurer dans l'ombre. Mais j'aimerais, et c'est pas des papis et des mamies, je vais à 60 ans, c'est très jeune, mais j'aimerais demander à tous ceux qui ont 60 ans et plus, s'il vous plaît, de vous lever un instant. Les 60 ans, je sais qu'il n'y aura aucune femme qui voudra se lever, mais juste pour un instant. Allez, 60 ans et plus, voulez-vous vous lever? Est-ce qu'on peut honorer les hommes et les femmes de Dieu qui ont bâti cette œuvre de Dieu en France et qui ont préparé le terrain? Quel privilège d'être ici avec vous. Et vous savez, les anglophones appellent cette journée VE Day, Victory in Europe Day. Mais moi, j'aimerais l'appeler VE Day, Victoire pour l'Église Day. Victoire, nous sommes ici pour honorer les anciens combattants, mais nous sommes ici pour déclarer le Seigneur à accomplir. Les choses anciennes se sont accomplies et nous en sommes tellement reconnaissants, mais Dieu en annonce de nouvelles pour chacun d'entre nous et pour l'œuvre de Dieu en France. Et nous ne sommes pas dessus. Ici, c'est une salle de spectacle où souvent, à la fin des spectacles, selon ce qui a pris place, les gens applaudissent. Mais par la foi, j'aimerais que vous acclamiez ce que Dieu va faire dans notre pays et dans la France et dans la francophonie. Annoncez-le prophétiquement avec moi. Lorsque je parle de cette victoire, de ces jours nouveaux pour l'Église en francophonie, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas fictif, ce n'est pas des chimères, ce n'est pas des souhaits pieux, c'est la réalité. Dieu le fait partout à travers le monde. Je vois en ce moment en France des œuvres se multiplier et Dieu faire des choses. Ce que nous voyons ici ce soir au Bataclan est quelque chose qui aurait été impensable il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Dieu fait quelque chose en ce moment en francophonie. Dans la province de Québec, pendant des années, l'âge moyen de nos églises sont d'au-delà de 50 ans d'existence et l'assistance moyenne est de moins de 70 personnes. Et en 1993, nous avons débuté l'église Nouvelle Vie de Longueuil. Il y a une photo qui va apparaître, je crois, s'il est possible, de nos premières réunions à l'église Nouvelle Vie, les tout débuts de l'église ensemble. Et nous avions même loué ce bâtiment, c'était une salle scolaire que nous avions louée. Et on a eu seulement une semaine pour se préparer. Et il y a une église de notre mouvement qui a été généreuse et qui avait dit, on va vous prêter des chaises. Et lorsqu'on a fait toutes les rénovations pendant 7 jours avant que la salle commence, une salle qui assoyait une centaine de personnes, on avait une quarantaine de personnes dans des premières pré-réunions ensemble à Longueuil. Et 2 jours avant le lancement, ils ont laissé un message sur notre téléphone et on dit, finalement, on ne peut pas vous prêter les chaises, on en a besoin. Alors nous étions pour être la première église qui débute sans chaises. Et il y a un jeune frère qu'on avait conduit au Seigneur, Daniel, qui m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'avoir sans chaise. J'ai dit, Daniel, tu ne peux pas nous laisser tomber, on est sérieux quand même, ça prend des chaises. Et il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Et il a tenu promesse. Le samedi, les chaises sont arrivées et j'ai eu le malheur de lui demander, tu as pris où les chaises? Et il m'a dit, mon papa, il tient propriétaire d'un bar de danseuses nues. Et ils sont fermés le dimanche. Alors, on a nettoyé chaque chaise et prié sur chaque chaise et imposé les mains sur chaque chaise. Mais nous nous retrouvons 20 ans plus tard avec plus de 4000 personnes qui sont en Nouvelle Vie, une quarantaine d'églises partout à travers la province de Québec. Et nous avons ressenti du Seigneur pour notre 20e anniversaire de faire notre plus grand pas de foi en 20 ans. On a contribué à l'avancement et l'implantation de cette quarantaine, ce réseau d'églises partout au Québec. Mais nous avions vraiment à cœur que pour le 20e, qu'on puisse faire notre plus grand pas de foi. Nous avons prié et relâché entre 200 et 300 personnes qui sont joints à notre pasteur des jeunes adultes que nous avons relâché pour aller implanter une église en plein cœur de Montréal, comme nous sommes en ce moment en plein cœur de Paris. Nous voulions aller planter un pieu dans le cœur du dragon, en plein cœur de la ville. Et ils ont débuté il y a un an à Pâques, il y a un an avec 350 personnes. Et un an plus tard, ils sont plus de 750 personnes en plein cœur de la ville. Maintenant, dans mes notes, c'était écrit que vous diriez « Amen ». C'était écrit que vous diriez « Amen » et que vous applaudiriez ce que Dieu fait partout en ce moment, partout en francophonie. Dieu le fait! Et lorsque nous avons célébré notre 20e anniversaire et nous avons regardé un peu aux 20 ans et tous les témoignages et notre récit et témoignages de ce que Dieu a fait, nous avons vite réalisé que la phrase la plus commune, celle qui revenait constamment lorsque nous racontions le témoignage de ce que Dieu avait fait, la phrase qui revenait constamment était « Nous étions en jeûne et prière lorsque... » Nous étions en jeûne et prière lorsque... Et s'il y a une chose qui a été marquée dans nos cœurs et dans nos esprits, c'est que l'Église du Seigneur avance alors qu'elle a les mains levées. Le titre du message ce soir, c'est la vision de les mains levées dans la vallée des combats. Quel que soit, pour les milliers qui vont être sur Internet ou le millier qui est ici ce soir, il y a pour chaque personne des combats que vous seuls et Dieu connaissez. Un combat dans votre propre vie, un combat dans votre famille, avec vos enfants, un combat spirituel, un combat émotionnel, un combat qui prend place pour votre appel, un combat contre l'ennemi lui-même, un combat contre votre passé, un combat contre l'oppression, un combat contre les attaques et les injustices contre vous. Et quel que soit le combat, l'Esprit de Dieu dit à chacun, lève tes mains. Et ce soir, ce n'est pas la dimension physique, c'est la dimension spirituelle. Mais en commençant le message, vous simplement lever vos mains. Juste levez vos mains, dit Seigneur, nous levons nos mains vers toi. Et nous allons regarder un passage biblique ensemble. J'aimerais que tout le monde regarde avec moi dans la parole de Dieu à Exode chapitre 17. Les mains levées dans la vallée du combat. Exode 17 et le verset 8. Et le texte va apparaître à l'écran si vous n'avez pas votre Bible. Lorsque là, j'entends les pages qui tournent, les gens qui s'en vont, s'en vont à Exode 17. Le message de ce soir... Cette dimension de foi pour le surnaturel touche une corde dans votre cœur. Si elle fait écho dans votre cœur, je vous encourage, si le Seigneur vous conduit ainsi, si vous avez faim et soif de cette dimension du surnaturel, de considérer, vous procurer un livre que j'ai écrit à l'arrière. Je suis à terminer le quatrième livre, en train d'écrire un livre qui s'intitule que celui qui a une oreille entende, 7 messages prophétiques aux églises, les 16 églises de l'Apocalypse. Mais ce message, ce livre augmente notre foi. Je l'ai écrit a été écrit lors d'un temps de jeûne et de 40 jours de jeûne et de prière. Et il y a 20 ans de vie, 20 ans de ministère, 20 ans de témoignage. L'organisation Billy Graham Evangelistic Association au Canada a décidé d'acheter une quantité de ce livre et de le distribuer à des centaines de pasteurs au Canada. L'organisation Vision Mondiale a fait de même pour des ouvriers, des serviteurs laïcs de leur organisation dans différents pays du monde comme Haïti et plusieurs autres pays. Je crois que le Seigneur peut toucher votre cœur et j'avais à cœur de dire ceci, c'est un livre qui semble être utilisé de Dieu pour restaurer la vision que des gens ont eue lorsqu'ils ont été blessés, lorsqu'ils ont été meurtris ou déçus par l'œuvre de Dieu ou par l'Église du Seigneur. Il y a une vision du christianisme, de Christ, de l'œuvre du Seigneur qui est restauratrice. Et j'avais à cœur de suggérer la possibilité que peut-être si vous avez ce livre, que vous disiez, je vais en acheter un, j'ai quelqu'un à qui je veux l'offrir et que Dieu s'en serve pour être une bénédiction dans sa vie. Exode chapitre 17 et le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait ses mains, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Seigneur, que nos mains restent fermes jusqu'au jour où nous te rencontrerons. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Et Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom, l'Éternel est ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Voulez-vous dire à voix haute avec moi, de génération en génération? J'aimerais commencer ce message ce soir et le terminer demain matin. Combien d'entre vous prévoyaient être là demain matin? Laissez-moi voir votre main. Combien d'entre vous ne pensaient pas être là demain matin? Laissez-moi voir votre main. Et levez l'autre main avec repentance maintenant. Et dites, si vous pouvez être là demain matin, je crois que les deux messages doivent absolument vont aller ensemble. Nous allons regarder ce soir à la main, les mains levées dans la vallée des combats, la foi, la faveur et les mains levées, le flot des courants et combats et les mains levées, la frustration, la fatigue et les mains levées, la famille qui fortifie les mains levées, et j'ajouterai ceci, le fruit générationnel des mains levées. Dites à quelqu'un près de vous, baisse pas les bras. Allez. La foi et la faveur des mains levées. Moïse dit, c'est pas possible. Pas encore. Encore une attaque de l'ennemi. L'ennemi se pointe et à l'horizon et d'ici la fin de la journée, si vous lisez les chapitres précédents et les contextes des batailles, Moïse sait que d'ici la fin de la journée, ça peut être la mort pour des milliers de leurs familles, de leurs femmes, des hommes, des femmes et des enfants. Il a la responsabilité de toute cette nation et il y a quelque chose à Moïse qui peut dire, pas encore, encore une fois, encore un combat, encore un ennemi, encore une menace, des milliers, cette invasion qui se pointe sur eux. Il se tourne vers le jeune Josué et donne ses ordres. Josué est probablement trop jeune pour saisir la gravité du moment, la gravité du combat. Et dans les mots que nous avons lus, il y a notre quotidien. Choisis, nous des hommes, sors et combat. C'est notre vie chrétienne de tous les jours, alors que nous, à tous les jours, nous devons faire ces choix. Alors qu'à tous les jours, nous devons nous lever, sortir et aller au combat. Et dans chacune de nos décisions et choix. Moïse a 80 ans. Et Aaron a 83 ans et Hur est dans les années au-delà de 80 ans. Et pourtant, ils font ce que un enfant de 2 ans va faire. Ils lèvent les mains. Vous avez eu des enfants, vous avez eu des mômes, vous avez, c'est spontané. Avec chacun de mes enfants, je me souviens de marcher sur le bord de la plage avec mon fils tout petit, peut-être 2 ans, 3 ans, et on marche ensemble et je viens pour lui prendre la main, il me repousse la main. Mais qu'est-ce que tu crois, je suis un grand garçon, moi, je suis capable de... Et il marche, qu'est-ce que tu crois que je suis un gamin? Alors il marche et je le regarde aller, je marche près de lui et on marche ensemble et il y a une vague qui s'en vient, je le laisse aller et la vague vient et là, tu te quoi? Ah, papa, papa! À 22 ans, il fait moins papa, papa maintenant. Mais spontanément, Moïse, homme de Dieu, Aaron, lève leurs mains vers le ciel. Lève leurs mains vers Dieu. Moïse prend la décision stratégique. Voici la meilleure façon dont je peux servir le peuple. Voici ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, faisons. Lorsque l'ennemi attaque, voici lorsqu'il y a menace, lorsqu'il y a attaque, lorsqu'il y a combat, voici ce que nous faisons. Nous levons nos mains et ce message est en trois. Si vous vous souvenez d'une seule chose, souvenez-vous de ces trois images, en trois images. Et la première, trois images prophétiques. La première image, un homme qui monte sur la montagne. Il lève comme un enfant de 2 ans. Il lève ses mains vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait sur la montagne? Il ne lance pas des pierres à l'ennemi en bas. Il ne donne pas des ordres. Il ne cherche pas la dernière méthode, la dernière stratégie. Il ne blâme pas. Il ne se plaint pas. Il ne dit pas encore. Il ne dit pas non plus. Il ne dit pas non plus, Seigneur, encore, pendant encore combien longtemps. Il ne dit pas non plus, je sais comment m'y prendre. Je l'ai fait auparavant. Il lève ses mains vers le ciel. Lève ses mains. Lève ses mains vers le Seigneur lui-même. Nous avons besoin d'une aide. Et savez-vous ce que Moïse disait? Nous avons besoin d'une aide surnaturelle, sinon nous sommes morts. Nous avons besoin d'une aide surnaturelle, sinon nous sommes morts. Les dangers des victoires passées qui nous donnent un sens de fausse sécurité aujourd'hui sont très présents. La différence entre Moïse et nous, la nuance, la subtilité, la trappe et le piège, c'est que lui savait physiquement, tangiblement, qu'à moins que Dieu intervienne maintenant dans notre vie et qu'il vienne nous sauver. Si vous connaissez l'historique du texte, l'ennemi était à 5 contre 1. Il n'avait pas les ressources. Il ne pouvait pas vaincre. Et lui savait que c'était une question de mort maintenant, immédiatement. Notre combat à nous est dans l'invisible. Notre combat à nous n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des forces qui sont démoniaques. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, par la vertu de Dieu, pour abattre des forteresses. Mais tout aussi réel, tout aussi vie ou mort, puis-je nous rappeler le privilège d'en appeler à l'aide surnaturelle de Dieu? Jésus dit, Vous n'avez pas été créé pour combattre par vos propres forces. Vous n'avez pas été créé. Pourquoi voudriez-vous vous priver de la faveur divine? Pourquoi voudriez-vous vous priver de la faveur divine? Nous pouvons, et lorsque nous parlons de prière, nous pouvons compliquer la prière, nous pouvons négliger la prière, nous pouvons penser graduer de la prière, nous pouvons motiver d'autres, il y a plusieurs leaders, pasteurs et chrétiens de longue date, nous pouvons prendre pour acquis que tout le monde prie, nous pouvons motiver d'autres à la prière et penser remplacer la prière. Mais il y a encore aujourd'hui un appel, lorsque nous regardons aux quatre coins du christianisme dans la vallée des combats, il y a dans un coin ceux qui se cantonnent dans tout ce que nous avons besoin, c'est la rectitude doctrinale, c'est la connaissance, et plus de connaissances, et plus de discussions, et plus de débats, et plus de connaissances, et de séparation avec le reste du corps de Christ sur les distinctions théologiques. Dans un autre coin, vous avez à l'autre extrême la recherche de manifestations de l'esprit qui sont parfois et souvent extra-bibliques, hors des Écritures. J'espère que vous êtes avec moi. Je veux tout ce que la parole de Dieu me promet sur la personne du Saint-Esprit, mais je ne veux rien qui n'est pas dans le livre de Dieu sur l'œuvre et l'action de l'esprit. Et dans un autre coin, vous avez la perpétuation têtue de la tradition qui est devenue sans fruit et sans vie, mais qui est perpétuée, et où l'Église se recroqueville sur elle-même, se tourne sur elle-même et perd même si elle n'est pas l'Église des mal-levés. Et c'est le thème de toute cette conférence. Nous sommes assez secoués et bénis. Pasteur Carter et moi et Teresa et notre frère Franck, nous ne sommes pas parlés avant, mais les messages viennent un après l'autre et à une même voix. Et je crois que celui qui a une oreille entend que Dieu veut dire quelque chose à l'Église de France. Il dit, c'est le temps de lever les bras. C'est le temps de lever les mains dans la vallée du combat. Il y a plusieurs années, nous étions en vacances et au Mexique avec les enfants. Et je marchais sur le bord d'un quai. Il y avait un magnifique, je croyais que c'était un bateau au début, mais un ancien navire qui était tourné en restaurant 5 étoiles. C'est un restaurant magnifique. Il y avait les serveurs avec les boucles et tout. Je me suis approché. Je trouvais cela vraiment magnifique. Il y avait la liste des prix, le menu avec les prix. Lorsque je me suis approché des prix, j'ai ressenti une direction claire du Seigneur que ce n'était pas pour nous. Ce n'était pas un restaurant pour nous. Et lorsque je me suis approché, il y avait une plaque explicative historique du navire. Et j'étais là, et vous pensez pas, on réalise pas, Dieu peut nous parler partout, n'importe où. J'étais là avec mon maillot de bain, la casquette, et je regarde, et sur la plaque, ils expliquaient que c'était un ancien navire des Nations Unies. Un navire qui s'était appelé le Conquérant. Et qui, pendant des années, était allé de pays en pays en situation de crise pour nourrir des affamés, pour dans les moments d'épidémie, dans les moments de guerre. Et maintenant, ce qui avait été conçu pour la libération et pour la délivrance et pour le salut et pour le secours de ceux qui souffrent était tourné en 5 étoiles où chacun se nourrit entre nous. Vous voyez un lien? L'Église du Seigneur Jésus-Christ n'a pas été appelée à se réunir entre nous. Nous n'avons pas été appelés semaine après semaine. L'expérience d'Église n'a jamais supposé avoir été qu'on vient à l'Église simplement pour se régaler. Est-ce que la prédication va être bonne? Est-ce que les chants sont à mon goût? Est-ce que les choses sont comme je veux? Est-ce que le pasteur prêche pas assez longtemps, trop longtemps? Est-ce qu'il est assez sur le Saint-Esprit? Pas assez? Est-ce qu'il est assez? J'ai perdu mon foulard. Est-ce qu'il est assez doctrinal ou pas doctrinal? Nous ne sommes pas appelés à venir nous gaver à chaque semaine et à donner une note au prédicateur ou à l'Église. Nous sommes appelés à servir et à aller vers ceux qui souffrent et à aller être les conquérants. Seulement possible avec la foi des mains levées. Sans la foi, il est impossible d'avoir un témoignage. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il n'y a pas de témoignage aujourd'hui sur la foi de nos pères et mères d'hier. Nous avons besoin d'un peuple aujourd'hui de tous les âges qui lève ses mains chaque jour. Là, sans la foi, il est même impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelle présomption, quelle arrogance, quelle présomption de prétendre dicter à Dieu ce qu'il aime, de prétendre dicter à Dieu ce qui lui plaît. Dieu a mis clairement dans sa parole ce qu'il aime. Voici, il aime les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il aime une église qui, dans l'unité et le pardon à l'amour totalement différent de tout ce qui les entoure, manifeste à ce monde qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Il aime l'église qui a un cœur pour ceux qui souffrent. Il y a plus de 1000 versets dans la parole de Dieu sur l'aide aux démunis, sur l'aide aux nécessiteux. Voici ce que j'aime. J'aime l'église qui vient ensemble. J'aime l'église où chaque croyant dans la grâce et dans la nouvelle alliance s'offre comme un sacrifice vivant, désirant être transformé. Et j'aime l'Église qui marche les mains levées. Nous ne pouvons pas dicter à Dieu. Voici ce que nous croyons que tu devrais aimer. Des réunions semaine après semaine, du professionnalisme, des méthodologies, des moyens humains. Voici ce que nous croyons que tu devrais aimer. Des traditions que nous répétons et répétons. Non, Seigneur, nous voulons nous replacer à un endroit où nous entendons ta voix qui nous dit, voici ce que j'aime. J'aime mon peuple qui marche avec les mains levées. Il peut y avoir des chants, il peut y avoir de la louange, il peut y avoir des prédications, il peut y avoir une rectitude doctrinale. Il peut y avoir des années d'ancienneté, il peut y avoir des témoignages passés fabuleux, mais sans la foi, aujourd'hui, maintenant, d'un peuple qui plante ses pieds, lève ses mains, il dit, oh Dieu, nous te croyons, les mains levées, il est impossible de lui être agréable. Mais comme la foi, Dieu dit même, c'est voici ce que j'aime, c'est cette foi, les mains levées, et ce que j'aime dans le peuple, il dira aussi que la vie sans prière est en plus une marque distinctive de ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ne marchent pas avec Dieu. La foi et les mains levées nous identifient. Le psaume 14 le dit de cette façon, « L'Éternel regarde du ciel, il voit les fils de l'homme pour voir s'il y en a un qui comprend, qui cherche Dieu. Tous ceux qui commettent l'iniquité et qui dévorent mon peuple ont perdu leur sens car ils n'invoquent pas l'Éternel. » Je peux vous dire ceci avec tremblement. Lorsque vous voyez un chrétien dans une église ou un leader chrétien qui dévore son peuple, qui déchire, qui fait du mal, qui murmure, qui abaisse, qui attaque, qui garde amertume, qui cause division et qui divise et qui dévore le peuple, vous avez une marque certaine de quelqu'un qui ne cherche pas Dieu. Parce que lorsque tu cherches Dieu et lorsque tu lèves tes mains vers lui, il répand dans ton cœur un amour pour ses enfants, un amour pour son peuple, un amour pour son épouse, un amour pour son église. Assez! Assez de croire, de justifier avec des piosités, de ceux qui dévorent l'Église avec un sens de piosité. Ceux qui s'approchent de Dieu et lèvent leurs mains vont aimer l'Église, pardonner l'Église, servir l'Église, se donner pour l'Église, intercéder pour l'Église, car elle est l'épouse et le corps et les enfants de Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Il devrait dire Seigneur, fais de moi quelqu'un qui lève mes mains pour ton peuple. La foi qui nous identifie littéralement, l'intercession des mains levées. Il y a un cri, Pasteur Franck l'a prêché cet après-midi magnifiquement, Pasteur Carter ce matin dans chaque message. Il y a un cri, si nous avions pendant une seconde, alors que nous sommes ici au Bataclan, dans la ville lumière, aux quatre coins de la ville lumière, dans la chambre de leur cœur. Il y a des milliers et millions de personnes dans cette ville qui ont, dans la ville lumière, des ténèbres dans leurs âmes et qui crient littéralement sans le savoir, sans le réaliser, et qui crient littéralement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut enlever ce bâton d'au-dessus de moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut? Job le dit de cette façon lorsqu'il a Job chapitre 9 et le verset 33 apparaît à l'écran. Il y a quelqu'un qui crie, qui dit, il n'y a aucun médiateur entre nous, oh Dieu. Aucun qui puisse avoir une main sur l'épaule de Dieu et une main sur l'épaule des hommes afin que ce bâton soit enlevé de sur moi et que je sois délivré de ma douleur. Il y a un équilibre magnifique dans la vision, main levée, une main, symboliquement le langage poétique de l'Ancien Testament, une main sur Dieu, mais toujours une main sur les hommes. L'Église qui a une main sur Dieu seulement va sombrer dans l'endurcissement. Oh, bénis-moi, remplis-moi, touche-moi, plus d'expérience entre nous. Une main sur Dieu seulement, endurcissement. Suivez-moi bien, une main sur les hommes seulement, sans le renouvellement de l'esprit, épuisement. Par tes propres forces, tu vas arriver au bout de ta compassion, au bout de tes douleurs, et des hommes et des femmes qui sont ici, vous vous êtes donnés pour le service de Dieu, et on vous a déchiré le cœur. Vous vous êtes donné à des gens qui en retour se sont éloignés. Vous aviez une main sur les hommes et vous serviez et vous aimiez. Mais sans la main sur Dieu, il y a, et cet équilibre, une main sur Dieu pour toucher les hommes et être renouvelé, il y a un épuisement. Une main sur Dieu seulement, endurcissement. Une main sur les hommes seulement, il va y avoir un épuisement. Mais une main sur Dieu et une main sur les hommes, il va y avoir des exploits par l'Esprit de Dieu pour changer des vies. Je vous dirais de cette façon, la foi, la faveur et les mains levées, 2.0. La vie chrétienne, le désir de Dieu en entier, en une phrase dans le psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Personne n'a dit Amen, c'était vraiment un beau moment pour dire Amen. Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifiera. Que l'Esprit, que quelqu'un entende la voix du Seigneur ce soir qui vous dit, il n'y a pas, tu ne peux imaginer, il n'y a pas de limite à ce que Dieu veut et peut faire et accomplir à travers un homme et une femme qui vit avec les mains levées devant Dieu. Pas de limite à la guérison de votre passé, à l'accomplissement de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Les Écritures disent, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, le cœur de l'homme ne peut pas imaginez les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il a choisis. Elles seront révélées par l'Esprit. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 17 ans, venant de la rue, il y avait sur mon cœur ce désir de servir Dieu. Et un jour, j'ai entendu parler d'un centre de collège biblique qu'il y avait dans notre mouvement et j'étais tout jeune, j'étais complètement vert. J'avais 17 ans, je venais de la rue, je parlais terriblement et peut-être probablement j'étais trop jeune pour y aller, mais il y a eu un cours de prédication. Et lorsque je suis allé dans la classe et j'ai commencé à assister au cours, là, j'étais entouré de bons chrétiens et il y avait moi. Et j'étais assis là et puis ils ont dit, vous allez faire un sermon de 5 minutes. Et je me souviens d'être terrorisé. J'avais 20 pages de notes pour mon message de 5 minutes. Et je l'ai donné du mieux que j'ai pu de tout mon cœur. Et c'est là que j'ai commencé à suer. Et je n'ai jamais arrêté depuis. Et à la fin du message, le professeur qui est un pasteur de notre mouvement, que je connais encore, qui est vivant encore et on se connaît bien, et il m'a pris à part. Et c'est un homme extrêmement éloquent et très éduqué et tout. Et il m'a pris à part, il m'a dit, tu sais, jeune homme, Claude, ton nom. Il m'a dit, tu sais, Claude, il y a des personnes qui peuvent aller vers le ministère. Il y en a d'autres que par leur passé, leur arrière-plan, leur manque d'éducation, comment ils parlent, d'où ils viennent, ne pourront jamais y aller. Il m'a dit ceci, si tu aimes le Québec, oublie le ministère. J'étais dévasté et je suis allé dans mon église et je cherchais un chrétien pour m'encourager. J'étais bouleversé, je voulais me confier en quelqu'un. Et vous savez, parfois, les chrétiens, même avec des versets bibliques, peuvent te faire des consolations qui sont c'est pas à point, hein, c'est pas... J'étais allé voir ce frère et il faut que vous compreniez, là, tout, je parlais mal et tout en moi, c'était terrible, mais je lui dis, moi, je crois que Dieu, je voudrais servir le Seigneur. Et lui m'a dit que si j'aime le Québec, je ne devrais pas, oublier même d'être prédicateur. Et lui m'a dit, tu sais, dans l'Ancien Testament, Dieu a même utilisé un âne, alors peut-être que toi... Ça ne m'a pas relevé, ça ne m'a pas fortifié. Ce n'était pas la parole prophétique que j'attendais. Et chez nous, à l'église, le pasteur nous mettait au boulot. Alors, j'étais bénévole et je faisais toutes sortes de choses dans l'église. Et je faisais aussi le ménage. Je passais l'aspirateur, je nettoyais l'église. Et parfois, lorsque personne n'était là, à la petite église avec une croix, et je passais l'aspirateur, lorsque j'avais fini mes travaux, je marchais dans l'église et les bras levés. Je disais, Seigneur, je t'aime tellement et Seigneur, je veux te servir. Et probablement, je ne pourrais jamais être prédicateur. C'est vrai que et là, tout mon passé revenait, l'arrière-plan, et la violence, et l'alcoolisme, et papa alcoolique, grand-papa alcoolique, les oncles, la violence, la méchanceté, le mensonge. C'est vrai. Et je n'ai pas eu plusieurs visions dans ma vie. Mais alors que je marchais dans la petite église à l'âge de 18 ans, j'ai eu cette image, j'ai commencé à pleurer, une intercession tellement profonde. J'avais les mains levées, non seulement physiquement, mais toute mon âme vers lui. Et j'ai eu cette image tellement claire, totalement invraisemblable. Dieu a dit, tu m'invoqueras au jour de ta détresse, je te délivrerai et après tu me glorifieras. Tu sauras que c'est moi seulement qui peux le faire. Et j'ai eu cette image totalement invraisemblable d'être debout dans un stade de hockey. Chez nous, on les appelle des arénas, comme vous avez vos stades de foot. Chez nous, c'est le hockey. Et j'étais dans une aréna de hockey. Il y avait des milliers de personnes et je donnais mon témoignage. Notre église avait 80 personnes. C'était totalement... Et j'étais celui que s'il aime le Québec, ne parlerait pas en public. Alors, c'était totalement invraisemblable et fou. Je suis parti pour le collège biblique et vers 21 ans seulement, je suis revenu au Québec. Et le pasteur David Wilkerson est venu au Québec et il cherchait un traducteur pour David Wilkerson. Et ils m'ont, ça c'est la photo de moi. Je sais que j'ai l'air d'un narcotrafiquant latino sur cette photo. 1985. Et je vais vous dire les faits, la raison pourquoi ils m'ont choisi. Je venais de graduer du collège biblique. Et dans notre mouvement, c'est pas comme ça en France, mais dans notre mouvement, il y avait beaucoup de clans, de divisions. Dans notre mouvement, lorsqu'ils disaient ça pourrait être pasteur, lui qui serait traducteur, les autres disaient, ah non, si c'est lui, on participe pas. Et non, ça pourrait être lui. Ah non, si c'est lui, on y va pas. Et quelqu'un a dit, mais si on prenait Oud, le jeune, personne ne le connaît encore. C'était ma seule qualification. J'étais totalement insignifiant. Et à tous les soirs, j'étais le traducteur pendant 5 semaines. Imaginez, c'est une autre époque, 5 semaines, partout à travers la province de Québec. Il y a plein de gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Luc Dumont et des centaines d'autres qui sont dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, sauvés pendant cette période. Et avant chaque réunion, nous, on traversait les messages. Le pasteur David et moi, on priait ensemble. Et j'étais totalement terrorisé et intimidé. Il était hyper gentil, mais moi, j'étais hyper juste terrorisé et de le traduire. Et il y avait un seul soir, je pensais pas du tout à ce qui était arrivé dans le moment de prière, mais il y a un seul soir où on était dans un stade de hockey. Dans la ville de Québec, au Colisée de Québec, et c'était le soir où il y avait 10 000 personnes. C'était la plus grande foule dans l'histoire de cette ville. 10 000 personnes qui étaient là, des milliers d'inconvertis. Il y avait sur l'estrade peut-être 50, 70 pasteurs. Et là, le message commence et le pasteur Wilkerson commence à prêcher. Et c'était super, je le traduisais le mieux que je pouvais. Et tout à coup, il s'arrête et il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Something's wrong. Et moi, j'ai pensé, c'est moi. C'est un prophète. Je suis fini. I'm found out, finally. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je dis, non, ça va, allez, continuez. Il se tourne vers les frères, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tous les pasteurs étaient là, le regardaient, et il dit, je sais ce que le Seigneur me dit de faire. Je vais aller m'asseoir, et je vais laisser mon jeune interprète raconter son témoignage. Ouais, non. Vous dites ça, mais les pasteurs disaient, non. Et là, j'étais la mort d'un homme, debout dans le stade, en tremblotant, Oh! Je me suis mis à pleurer et à raconter mon témoignage. Et après 5 minutes, je me tournais et disais, non, go on, continue. Et finalement, à la fin, il est venu, il a prêché, il a fait un message, il a fait un appel. Il y a des milliers, vraiment, des milliers qui ont répondu à l'appel. Et ce soir-là, étendu sur mon lit, j'avais les bras tendus vers Dieu. Dieu m'a rappelé ce moment dans l'église. Je n'avais que 20 ans à l'époque, j'en ai 52 aujourd'hui, mais je vis, écoutez-moi! Je vis et je le prononce sur quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dieu a des choses pour toi. Il a préparé des choses que les mains levées. Il faut que tu relèves tes mains. Ton œil n'a pas vu. Ton oreille n'a pas entendu. Ton cœur ne peut pas imaginer ce que Dieu a préparé pour toi. Voulez-vous acclamer ce que le Seigneur pourrait faire en vous? Le flot, la foi et la faveur des mains levées et le flot des courants et combats des mains levées. Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait ses mains, Amalek était le plus fort. Main levée, faites-le avec moi. Main levée, victoire. Main baissée, défaite. Je me demande combien de temps ça leur a pris pour faire le lien. Vous pouvez imaginer la scène, Moïse lève ses mains et peut-être qu'il commence à être un peu fatigué ou peut-être que c'est la pause syndicale française obligatoire. Et il s'arrête et alors qu'il va pour prendre son pain français et son foie gras, tout à coup les mêmes combats, la même armée, les mêmes armes, les mêmes chants, les mêmes promesses, les mêmes prophéties, mais c'est l'ennemi qui gagne du terrain. Et la première fois, lorsqu'il retourne, « Seigneur, nous venons à toi », lorsqu'il retourne, le peuple se met à avancer. Et lorsque la pause du midi arrive, il y a Aaron et Hur qui disent « Allez, Momo, il faut que tu retournes à la prière, c'est important, là. » Je me demande combien de temps ça leur a pris pour faire le lien. Et la question la plus importante, c'est « Et vous? » « Et vous? » Ça vous a pris combien de temps? Ou avez-vous réalisé, ou avez-vous oublié que main levée, victoire? Main baissée. Il y a un autre cycle. Je dirais de cette façon, peut-être que cette pensée va rester dans votre cœur. Le courant des combats de nos vies est directement relié à la position de nos mains. Le courant des combats de nos vies est directement relié à la position de nos mains. Je ne parle pas physiquement. J'ai fait la vérification. C'est seulement main levée, mais baissée pour moi, c'est 142 cm. Main levée, 218 cm, main baissée, 76 cm, la différence, 142 cm. Physiquement, dans le visible, c'est peu de différence. Mais spirituellement, dans l'invisible, c'est toute la différence. Et un pasteur, à des leaders qui travaillent si fort, et au Québec, on dit qu'ils bûchent, et qu'ils travaillent, et qu'ils bossent, et qu'ils se donnent, et qu'ils essaient toutes les méthodologies possibles, et tous les efforts possibles, et toutes les choses possibles, et tu es sur Internet, et tu es partout, et tu es dans tous les départements, et tu es dans tous les sphères de l'œuvre, et tu te donnes, et tu saignes, et chaque goutte sent, et tout semble tellement pénible, semble tellement difficile, j'avance d'un pas, je recule de trois, il semble que les choses ne se réalisent pas, et ta main est tellement active, et l'Esprit de Dieu dit oui, mais carrément, totalement. Est-ce que tes mains sont levées? Pas seulement prier pour le message, pas seulement prier pour les offrandes, pas seulement prier pour la protection de Dieu parce qu'il y a une division, pas seulement prier. Non, est-ce que tu vis cette vie de mains levées? Parce qu'il y a un flot. Le flot des courants et des combats de nos vies sera directement affecté par la position de nos mains. Il y a deux cycles dans ces courants, vous les avez connus. Dans les périodes de nos vies, le cycle main levée, où il y a des périodes, et on ne parle pas d'être parfait, mais il y a ce cœur qui recherche Dieu. Il y a ces décisions que seulement Dieu rend possible par son esprit en nous, mais où je vis les mains levées et où je le cherche. Il y a un flot de vie, il y a une joie. Vous l'avez vécu? On le vit dans des moments comme ce matin, comme cet après-midi, comme hier, comme nous, les mains sont levées, il y a une joie qui revient. Les choses ne sont pas parfaites, mais il y a une direction, il y a un changement de notre cœur, il y a une faveur de Dieu, il y a une protection de Dieu. Je suis dans la détresse, je lève mes mains, il me délivre, je le glorifie. Il y a ce flot, ces périodes. Souvenez-vous un moment de ces périodes mains levées dans votre vie. Dans la vie de votre église, dans la vie de votre ministère, dans votre vie à vous, hommes et femmes, mari et femme ensemble, maman, papa. Mais il y a aussi le cycle, le flot des mains baissées. Et si le cycle des mains levées, c'est foi, force, flamme, fidélité de Dieu qui se manifeste. Wow, foi, force de Dieu, la flamme de Dieu, la fidélité de Dieu. Wow, la foi. Le cycle des mains baissées, frustration, faiblesse, frayeur, tout me fait peur. J'ai peur maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Mon fils, ma fille, mon église, mon enfant, mon travail, mon futur, mon mariage. Frustration, les mains baissées. Frustration, faiblesse, frayeur, fatigue. Frustration, faiblesse, frayeur, fatigue. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il y a plusieurs raisons par lesquelles nous pouvons nous retrouver, plusieurs d'entre vous ce soir, et depuis le début de cette conférence. Dans l'honnêteté de vos cœurs, vous dites, je suis arrivé ici spirituellement fatigué. Fatigué, il y a plusieurs. La première chose que je vous dirais, c'est vérifier la position de vos mains. En prière, bien sûr, devant Dieu. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous arrivons à ces moments d'épuisement, de fatigue spirituelle. Les bras de Moïse étaient fatigués. Plusieurs raisons à notre fatigue. L'intensité des combats sans intermission. Il y a quelque chose. Combien d'entre vous avez déjà vécu seulement ce sentiment qu'il y a toujours quelque chose d'autre, il y a toujours une nouvelle chose. Je me suis relevé et là, il y a une autre attaque. L'inertie spirituelle près de nous, par ceux que nous voudrions voir combattre avec nous. Une des choses qui peut vraiment nous vider, une des choses qui peut vraiment nous blesser, nous vider, c'est de voir ceux qu'on aime ne pas marcher avec Dieu. De ne pas combattre avec nous et ceux pour lesquels nous devons nous voir depuis si longtemps. Et je vais le dire avec amour et tendresse. Pour beaucoup, beaucoup de gens dans les églises, une des choses qui peut les vider et baisser leurs mains, c'est lorsqu'ils ne voient pas cette foi, cette vivacité, cette flamme dans le cœur de leur berger. Lorsqu'il y a un leadership sans vision, un leadership routinier ou légaliste ou froid, où il n'y a pas cette ferveur, il y a un désarroi, il y a l'ennemi qui fait tout pour que les bras des chrétiens puissent baisser. L'inertie, l'injustice et l'indignation face à ce que nous avons subi peut être une tentation terrible de baisser nos mains. L'influence intimidante et très souvent d'une société très souvent indifférente à nos valeurs spirituelles. Nous sommes ici, ensemble, dans la maison de Dieu, qui est devenu ce lieu qui devient la maison de Dieu pour le moment où nous sommes ensemble. Et tout est possible, il y a la foi, mais vous savez, et je veux pas crever le ballon, mais vous savez que vous allez retourner au travail, vous allez aller au boulot, vous allez vous asseoir, vous allez être au travail devant la machine à café. Quelqu'un va dire, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Je suis allé à une conférence. De quoi il a parlé, le gars? Il a parlé de lever ses mains à un Dieu qu'on ne voit pas, qui va intervenir dans nos vies. Et c'est pourquoi, suivez-moi bien, c'est pourquoi il y a une tentation féroce dans les églises, dans le ministère, de professionnaliser le tout, de chercher les méthodologies. Il y a presque quelque chose de simpliste à la pensée que nous allons lever nos mains et croire Dieu. Et suivez-moi bien, je crois faire les choses avec excellence. Je remercie Dieu pour la musique, je remercie Dieu pour les talents, je remercie Dieu pour les arts, je remercie Dieu pour l'ordre. Mais sans les mains levées, les vies ne sont pas changées. L'onction ne brise pas les jougs et les cœurs ne sont pas renouvelés. Il faut lever les mains, il faut que tout le monde lève les mains. Quelqu'un devrait dire oui. Mm-hmm. Pourquoi les mains baissent? L'invisible qui gruge peu à peu notre foi. Et parfois qui semble alors qu'un dénouement miraculeux à notre épreuve semble presque impossible. Lorsque tu as levé les mains longtemps pour quelqu'un, pour quelque chose, il semble qu'il n'y a aucun dénouement possible. Et il y a toutes ces... Les bras de Moïse étaient fatigués. Et il y a toutes les forces de l'enfer qui poussent sur tes bras. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il y a aussi l'isolement. Je ne sais pas qui écoute ce message par Internet ou ici dans ce lieu. Un des outils les plus puissants, les plus dévastateurs et avorteurs d'avorter les destinées de Dieu. Et lorsque l'ennemi réussit à ce qu'un serviteur de Dieu ou un croyant, par blessure, par meurtrissure spirituelle, par injustice ou quoi que ce soit, s'isole. Et alors qu'il s'isole, dans l'isolement, Jean-Baptiste, qui connaissait tout de Jésus, qui avait dit, voici l'agneau de Dieu, il enlèvera le péché du monde. Moi, je suis venu vous baptiser d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mais dans son moment d'isolement, il dit aux disciples, allez lui demander, est-ce que c'est toi ou on doit en attendre un autre? Dans l'isolement, l'ennemi nous ment. C'est pourquoi... Ce message est en trois images. La première, un homme sur la montagne, levant ses mains vers Dieu. La deuxième image, les bras de cet homme qui descendent. Et deux hommes imparfaits, Aaron et Hur, qui viennent chacun sous un de ses bras. Que Dieu imprime cette image sur votre cœur. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et le peuple de Dieu a repris le combat. C'est mon message de demain matin. Demain matin, le message sera sur, je prie que vous soyez là, nous allons voir ensemble bibliquement ce qui avorte le surnaturel et ce qui active le surnaturel. Et dans ce moment, Moïse, l'homme de Dieu, l'ami de Dieu, qui a vu la gloire de Dieu, dans ce moment, a besoin que des frères viennent, la famille de Dieu, qui viennent soutenir ses bras. Et souvenez-vous que comme le pasteur Carter nous a parlé de Jésus, qui dans son humanité, parfaitement Dieu, et entièrement homme, tenté en toute chose afin de secourir ceux qui sont tentés. Il y a celui, Simon, qui est venu porter sa croix avec lui. Et Jésus, au jardin de Gethsemane, prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillez avec moi. » Ils étaient incapables en eux-mêmes, mais il y a ce portrait de Aaron et Hur. On va voir demain matin, ouvrir les Écritures ensemble, que nous avons besoin les uns des autres. Et l'Église, la famille, l'Église, le ministère, la famille d'Église qui se soutient les bras les uns des autres, va voir la gloire de Dieu se manifester dans la vallée. Dites à quelqu'un près de vous, dites à quelqu'un près de vous, j'ai besoin de toi. Dites à quelqu'un près de vous, j'ai besoin de toi. Et maintenant, à la même personne, dites-lui, « Et tu as besoin de moi. » Allez, dis-lui ça aussi. La foi est la faveur des mains levées. Le flot, les courants de nos vies par les mains levées. La fatigue, mais la famille qui vient soutenir les mains levées demain matin. Ce qui avorte l'action de Dieu, ce qui l'amorce, ce qui peut la meurtrir, ce qui la multiplie. Et dernièrement ce soir, ce que j'appellerais le fruit générationnel, des mains levées. Première image, un homme sur la montagne, ses bras tendus vers Dieu. Deuxième image, trois hommes ensemble sur la montagne, portrait d'unité, leurs mains levées vers Dieu et la victoire qui vient dans la vallée. Et la troisième image, les mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre du souvenir pour que le souvenir s'en conserve. Et Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel et ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Voulez-vous dire à voix haute avec moi de génération en génération? Troisième image, première image, un homme sur la montagne, ses bras levés vers Dieu. Je dépends de Dieu, j'ai besoin de Dieu seulement par toi, Seigneur. Dans mon jour de détresse, je t'invoquerai, tu me répondras et je te glorifierai. Deuxième image, trois hommes imparfaits, mais en unité ensemble, et les bras se soutenant les uns les autres, et l'action de Dieu et la victoire qui vient dans la vallée. Et vous pouvez voir Josué et tous les jeunes hommes de guerre, la nouvelle génération, ils avancent, et alors qu'ils combattent, ils se mettent à avancer, ils détruisent l'ennemi. Dieu dit à Moïse, marque ce moment, qu'il soit rappelé, que personne ne l'oublie. Il y a un message qui est là, de génération en génération. Et vous pouvez imaginer les hommes. Vous pouvez imaginer, vous avez vu un film de guerre, ou même dans les sphères du monde spirituel. Vous pouvez imaginer ces jeunes hommes de combat, lorsque finalement le dernier ennemi, et pour cette bataille-ci, il y en aura d'autres, mais pour cette bataille-ci, lorsque le dernier ennemi est étendu sur le sol inerte, vous pouvez voir les jeunes hommes dire, ouais, c'est nous, et on est forts, et on a réussi. T'as vu, pardonnez-moi, mesdames, t'as vu lorsque je lui ai fait sauter la tête, c'est magnifique. T'as vu le sol, t'as vu, ouais, c'est nous, on est capables. On est fort, on l'a fait, t'as vu comment on l'a fait? On est fort, et alors qu'on marche ensemble, et oh oui, c'est formidable quand ouais, on est capable, on peut, on est capable. Et tout à coup, alors qu'il marche, le soleil descend, couché du soleil, et tout à coup, ils marchent ensemble en riant, et tout à coup, il y a un des jeunes hommes qui prend l'autre, qui l'arrête, qui dit, regarde, il y a trois hommes sur la montagne avec leurs mains levées. C'est de là qu'est venue notre victoire. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos talents, ce n'est pas par nos sermons, ce n'est pas par notre expertise, ce n'est pas par notre intellect, ce n'est pas par notre connaissance, ce n'est pas par nos années d'ancienneté, c'est par la grâce de Dieu alors que nous levons nos mains vers lui et l'action surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas écrit dans le texte Mais je peux voir les hommes arrêter de courir, s'agenouiller et dire, Seigneur, c'est seulement toi qui l'as fait. De génération en génération. Et la question que l'Esprit de Dieu m'a posée et vous pose à vous, lorsque je méditais sur ce passage, je tremblais devant Dieu avec cette idée de impartation, cette idée des mains levées et de la bénédiction qui peut être générationnelle, de génération en génération, c'est Seigneur, quel est le message que ma vie communique à ceux qui sont autour de moi? Est-ce que je communique un message que les mains levées, je n'ai jamais arrêté de dépendre de Dieu, d'avoir mes mains levées vers lui. J'étais pas parfait, ni un pasteur parfait, ni un papa parfait, ni un homme parfait, ni un époux parfait. Mais j'étais un homme qui a vécu ses mains levées vers Dieu et qui a raconté à chaque année et à chaque décennie de sa vie, pas raconté seulement les histoires d'il y a 30 ans, mais j'ai raconté à chaque décennie de ma vie, dans mes moments de détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a délivré et je lui ai donné la gloire. Il y a quelque chose qui est reçu par une jeune génération qui dit oui, nous allons nous emparer de Paris et de la France, mais pas par nos méthodologies ou nos capacités, pas par notre arrogance ou pas par nous, on est fort, on est capable, mais pas ni par puissance ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Je vais inviter l'équipe d'adoration à s'approcher. Je vais terminer avec ceci. Il y a plusieurs années, quelques années maintenant, une douzaine d'années, comme pasteur, c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement. J'ai été invité, appelé, aller au chevet d'un homme de notre église qui avait 63 ans et qui était en cancer terminal. Il y avait plusieurs opérations et Jacques, un homme de Dieu, famille chrétienne, un homme vraiment consacré au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque nous quittons ce corps absent du corps, présent avec le Seigneur, l'apôtre Paul a dit, ma vie, même la mort m'est un gain. La plus grande victoire que nous avons ce soir ici au Bataclan, c'est qu'un enfant de Dieu, un chrétien, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui naît deux fois, mais qui ne meurt jamais. Je le redis une autre fois, quelqu'un qui naît deux fois, mais qui ne meurt jamais. Je suis né physiquement, je suis né par l'Esprit de Dieu et je ne mourrai jamais. Un jour, ce corps s'éteindra et je m'en irai dans la présence de Dieu. Vous devriez dire amen. Moi, j'ai averti tout le monde à l'église Nouvelle Vie. Moi, mon rêve, c'est de finir en prêchant, en étant en train de suer et de prêcher et d'arracher une âme des griffes de l'ennemi. Et un jour, j'ai dit à l'église, soyez certains, si ça, je veux partir en prêchant, tomber par terre, verser pas une larme, passer le balai et amener un plus jeune pour apporter la parole. Moi, je serai avec le Seigneur. Alors, c'est pas une attitude de si quelqu'un quitte cette terre, quel que soit son âge, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la défaite, mais c'était une situation de cancer, un homme de 63 ans, et j'entre dans l'église, après nos deux réunions du matin, ou trois réunions, je me rends à l'hôpital, ils ont dit, c'est les dernières heures, et nous sommes dans un contexte très catholique au Québec. Je me souviens d'être entré et ils ont dit la famille, vous n'avez pas le droit d'aller, monsieur, c'est seulement la famille. Et j'ai dit, mais je suis pasteur. Oh, vous êtes curé, vous êtes aumônier. Et il y a quelqu'un qui a dit, allez, j'ai entendu quelqu'un passer et qui a dit, allez, c'est le curé qui arrive pour l'extrême onction. Il va préparer à la mort. Et c'est quelque chose que j'ai fait. C'est quelque chose que j'ai fait dans le passé. Quelque chose, accompagner quelqu'un dans les bras de Dieu, c'est magnifique. Et je vous avoue que c'est dans cet état que je suis entré dans la chambre. Il y avait des tubes, il était vert, gris. Toute la famille est autour. Et une des choses qui m'a bouleversé, c'est lorsque je suis entré, il y avait son épouse, bien sûr, dans la soixantaine aussi, il y avait ses fils, mais il y avait aussi les petits-enfants qui étaient tous là. Génération en génération. Les garçons, les ados qui sont là, et plus jeunes qu'ados qui sont là. Et je suis arrivé, et mon cœur à moi était de prier avec eux et les accompagner et rappeler les promesses de Dieu. Je ne suis pas un grand évangéliste, je vous parle vraiment honnêtement. Un homme simplement qui lève ses mains vers Dieu. Je suis arrivé dans la chambre et commencé à prier avec lui. La pensée que j'avais était une pensée de prière de réconfort, de prière de remettre mon frère dans les mains de Dieu. Et toute la famille était avec moi, la tête penchée. Et lorsque je me suis mis à prier, c'est complètement autre chose qui était dans mon esprit. Des paroles de vie, des paroles de foi. Des paroles de « Seigneur, tu es capable de relever Jacques, tu es capable de le ranimer. » Et je vous avoue honnêtement qu'alors que je le disais, il y avait ce combat dans mon esprit parce que c'était... Mais honnêtement, je me disais « Mais qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce qui se passe? » Et lorsque je l'ai dit, c'est comme si la flamme toute la famille a eu une initiation, les papas, la famille, « Oui, Seigneur, tu peux le relever. » Et même alors, et vous pourrez me juger, mais même alors que je priais ici pour lui, toute la famille priait avec moi, j'étais dans un mode, cet homme est cancéreux, c'est la fin de sa vie, et tout à coup, il a bougé, il s'est comme levé. Et honnêtement, j'ai fait « Ouh! » Mais là, on s'est mis à prier. Je vous fais une longue histoire courte. 30 minutes plus tard, il faisait signe, enlevez les tubes, enlevez les tubes. 5 jours plus tard, il est sorti de l'hôpital pendant trois... Écoutez un instant. Pendant 3 ans, il lui faisait des tests à tous les 6 mois. Il avait 63 ans à l'époque. Il en a 75 aujourd'hui. C'est un serviteur de Dieu en parfaite santé. De génération en génération. De génération en génération. Tous ceux qui sont chrétiens depuis un certain temps, il y a une génération autour de nous qui ont besoin de nous voir avec nos mains levées devant Dieu. Et de voir le miraculeux, de voir le surnaturel de génération en génération. Alors voici mon appel ce soir, demain matin la conclusion. Pas la conclusion, demain matin une clé absolument essentielle au message. Mais ce soir, et c'est le thème de toute cette conférence, j'aimerais vous demander de pencher la tête avec moi pendant un instant et voici mon appel. Même peut-être qu'on peut se lever solennellement dans la présence de Dieu. Levez-vous avec moi et demeurez debout, mais personne ne se sauve, personne ne part. Un moment solennel. Il y a le bruit des bancs pendant un instant dans ce Bataclan. Mais maintenant, arrêtez-vous dans la présence de Dieu. Tête penchée devant lui. Et mon appel est très simple. Je ne vous supplierai pas. Seulement si l'Esprit de Dieu parle à votre cœur. Mais je crois que Dieu, à travers chaque prédicateur, prédicatrice de cette conférence, a une parole, a un mot, a un appel. Je vais vous demander seulement une chose. Pouvez-vous, pendant quelques moments, suspendre votre titre, votre position, qui vous connaît, qui ne vous connaît pas, que vous soyez un jeune chrétien ou un ancien ou un pasteur ou un leader, ou est-ce que nous pouvons être simplement des enfants de Dieu ensemble ce soir? Et si l'Esprit de Dieu t'appelle, vous appelle, monsieur, madame, des hommes, des femmes qui ont marché avec Dieu depuis des années et des tout jeunes. Et voici l'appel que Dieu a simplement mis sur mon cœur. Vous êtes ici ce soir, vous dites, j'avais baissé les bras. Dans un certain domaine, dans une certaine situation, j'avais baissé les bras. Mais pendant toute cette conférence, et ce soir, c'est votre première réunion, j'avais baissé les bras, mais ce soir, je veux lever mes mains vers Dieu. Il y a quelqu'un, j'avais baissé les bras pour mes enfants, j'avais baissé les bras pour une certaine vision dans ma vie, j'avais baissé les bras pour un ministère, j'avais baissé les bras pour mon église. J'avais baissé les bras pour mon appel. J'avais baissé les bras pour un rêve que Dieu avait mis dans mon cœur. J'avais baissé les bras pour... Ce n'est pas les bras d'effort humain. C'est de dire au nom de Jésus, je m'avance et je vais lever mes mains devant lui à nouveau. Je veux que le Saint-Esprit vienne raviver ce cœur d'intercession. Si vous êtes ici ce soir et vous dites, j'avais baissé les bras, mais me voici, Seigneur, je fais ces pas pour dire à mon ennemi, me voici, mes bras sont tendus vers Dieu. J'aimerais vous demander de quitter votre place tout de suite, immédiatement, et de vous approcher ici à l'avant, tout près, de dire, Seigneur, me voici. Je viens lever mes bras vers toi. Voulez-vous venir de partout à travers ce lieu? Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Et lorsque vous arrivez, dès ici tout près, venez tout près parce qu'il y a plein de gens qui vont venir derrière vous. Lorsque vous venez ici tout près, levez vos bras vers Dieu et surtout levez vos cœurs, vos âmes, vos voix vers lui. Commencez à simplement levez vos bras. Voici, Seigneur, je lève mes mains vers toi à nouveau. Mon frère, tu avais baissé les bras cette soirée pour toi. Vous êtes au balcon, vous aviez baissé les bras. Prenez quelques minutes pour descendre jusqu'ici. Un leader, j'avais baissé les bras. Un frère, j'avais baissé les bras. Maman, papa, j'avais baissé les bras. Pour mon mariage, j'avais baissé les bras. Des pensées d'abandonner, des pensées de laisser, des pensées de disparaître, des pensées de simplement continuer et simplement être là, faire l'œuvre jusqu'à la retraite, continuer dans l'église parce que j'aime Jésus. Mais j'avais baissé les bras que Dieu pouvait faire quelque chose avec moi, avec mon mariage, avec mes enfants, avec ma famille, avec notre église, avec notre ville. Quelqu'un qui est ici, j'avais baissé les bras pour Paris. J'avais baissé les bras pour Bordeaux. J'avais baissé les bras pour ma ville. J'avais baissé les bras pour le nord, pour le sud, pour l'est, pour l'ouest. J'avais baissé les bras pour mon service, mon appel, mon ministère pour Dieu. Des jeunes qui sont ici. Des jeunes qui sont ici. Et honnêtement, peut-être que tu n'as jamais vraiment levé les bras. Tu ne t'es jamais réellement abandonné à Dieu. Mais ce soir, le Seigneur t'appelle là où tu es, de sortir de ta place et de dire, je m'en voici, Seigneur. Je lève mes mains vers toi. J'ai tout essayé par mes propres forces. J'ai tout essayé avec mes plans. J'ai tout essayé avec ma façon de faire les choses. J'étais à l'église pour plaire à mes parents. Mais moi, je faisais mon truc. Mais ce soir, je suis arrivé au bout de moi-même comme il a été apporté par ton serviteur. Et me voici maintenant. Je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains vers toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Venez, viens, viens jeune homme, viens jeune fille, Est-ce que je peux demander à tous les chrétiens de prier? Il y a des jeunes qui vont venir au Seigneur ce soir.
Oui.
Jeune homme, jeune fille, c'est ton moment de t'abandonner. Viens. Je vous attends. Il y a plusieurs qui s'avancent. Venez. Venez. Venez, jeune fille. Venez, jeune homme. Le Seigneur vous appelle. C'est ton soir. Ce soir du 8 avril, du 8 mai, pardon. 8 mai 2014, c'est ton soir où tu t'es abandonné à Dieu. Plusieurs s'avancent. Je vais vous attendre. Venez. Venez. Maintenant, levez vos voix partout à travers ce lieu. Levez vos voix. C'est encore le temps. Je vois des gens qui descendent du balcon. Venez, on va vous attendre. C'est ton moment, tu comprends? L'ennemi a voulu t'empêcher. L'ennemi a voulu te garder loin du Seigneur. L'ennemi a voulu, a presque réussi. Mais ce soir, il est exposé. Ce soir, il est le menteur. Ce soir, tu viens à lui. Tu lèves tes bras vers Jésus. Il va te prendre, il va te consoler, il va te guérir, il va te conduire, il va te guider. Il va non seulement, tu ne viens pas à lui pour qu'il accomplisse ce que toi tu as comme rêve. Tes rêves sont trop petits. Tu as quelque chose de tellement au-delà. Tu viens à lui parce qu'il a des choses préparées d'avance que ton cœur, tes pensées ne peuvent même pas imaginer. Il y a encore des jeunes qui s'avancent, alors je me donne quelques instants. Hein. Chrétiens, priez, chrétiens, intercédez. J'aimerais maintenant que le Bataclan, qui a entendu les plus belles voix, les plus belles voix d'Europe et du monde, puisse entendre maintenant la voix des enfants de Dieu qui montent vers le ciel, partout dans ce lieu, balcon, dans la salle et ici à l'avant. Avant même que nous chantions des chants, j'aimerais que vous puissiez commencer à lever vos voix pendant quelques moments. Levons nos voix vers toi, mon Dieu. Je viens à toi, Seigneur. Seigneur, j'étais dans un cycle main baissée. J'avais baissé les bras. Mais pendant toute cette conférence, tu me parles. Je lève mes mains à toi, mon Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu vous montrer peut-être une personne, quelqu'un qui est rétrograde, quelqu'un qui est loin, une situation où vous aviez baissé les bras et l'Esprit de Dieu dit non, le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé. Je veux me servir de toi. Partout à travers ce lieu, que les profondeurs, deep calls unto deep, que les profondeurs de ton cœur puissent monter un cri vers Dieu. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de toi. Sans toi nous mourons, sans toi l'Église meurt. Sans ton intervention divine, l'Église n'est rien. Tout ce qu'on fait n'est rien. Sans ton intervention divine, mon mariage meurt, mon ministère meurt. Sans ton nom, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, alléluia. doucement. Toutes les voix vont chanter ensemble.
Laissez-moi
entendre vos voix.
T'adorons, chantons Alléluia. Alléluia.
Oui, nous t'attendons.
Oui, nous t'attendons.
D'unité qui prend place. Il y a quelque chose qui prend place dans les lieux célestes ce soir ici. Alors que nous levons nos mains vers le ciel ensemble et que nous déclarons un jour nouveau pour notre pays de France. Un jour où nous entrons dans la récolte, nous entrons dans la moisson que Pasteur Franck l'a apporté cet après-midi. Où nos pères et nos mères ont semé leur vie, ont semé leur sang, ont semé leur intercession, leur jeûne, leur prière, leur service, leur sacrifice. Nous entrons maintenant dans la récolte dans le nom de Jésus. C'est seulement merci Seigneur pour tout ce que, tous les talents, tous les dons, tout ce que Dieu a donné, il va les utiliser. Et c'est avec des mains levées que nous allons entrer dans cette nouvelle période. Et c'est des mains levées ensemble. Ou église avec église, et croyant avec croyant, et génération avec génération. Je déclare par la foi au nom de Jésus, que le jour où les chrétiens se dévoraient, où un dévorait l'autre, nous déclarons, Seigneur, nous allons racheter le temps. Notre combat n'est pas les uns contre les autres. Notre combat est contre les ténèbres et contre le satanique et contre l'ennemi lui-même et contre le menteur lui-même. Et nous déclarons un jour où nous allons élever nos mains vers Dieu ensemble. Voulez-vous dire à voix haute avec moi, ensemble? Alors, prophétiquement, pendant quelques instants, mais avec beaucoup de respect, ne mettez personne inconfortable, mais puis-je vous demander pendant quelques instants simplement de prendre la main de quelqu'un près de vous, les mains levées ensemble. Soyez respectueux, mais j'aimerais voir des gens de différentes générations. Tout le monde prend la main de quelqu'un et levez vos mains ensemble respectueusement. Il ne faut pas que personne soit inconfortable. Mais j'aimerais voir des jeunes et des gens de toutes générations, et vingtaine et moins que 20 ans, et 30 ans, et 40 ans, et 50, et 60, et 70, et 80, et leaders, et pasteurs, et chrétiens, et bénévoles, et anciens. Prendre la main de la personne à côté de vous et pendant quelques minutes, priez pour la personne à votre gauche et à votre droite. Peut-être que vous la connaissez super bien, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais Dieu la connaît et vous pouvez lever vos mains vers Dieu pour lui ou pour elle. Partout dans cette salle maintenant. Priez pour la personne à votre gauche, priez pour la personne à votre droite. Nous sommes ensemble sur la montagne, Seigneur. Nous levons nos voix pour la France. Je lève la voix pour mon pasteur. Je lève ma voix pour son épouse. Je lève ma voix pour ses enfants. Je lève ma voix pour mon frère. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Bénis sa famille. Bénis sa vie. S'il est tourmenté, s'il est seul, s'il est isolé. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui écoutent. Je prie pour toi qui écoutes ce message par Internet. Je prie pour toi qui écoutes ce message sur le Top Chrétien. Je prie pour toi là où tu es. Isolé avec l'ennemi qui t'avait menti. L'ennemi a tout fait pour que tu baisses les bras, mais là où tu es, l'Esprit de Dieu te rejoint. L'Esprit de Dieu te rejoint. L'Esprit de Dieu te rejoint. Allez, allez, priez les uns pour les autres, priez pour la paix avec ferveur les uns pour les autres, priez, balcon, Seigneur Dieu, nos voix se lèvent vers toi, nos mains sont levées. Nous élevons ta bannière sur notre pays. Nous élevons ta bannière sur la France, mon Dieu. La bannière de ta fidélité. Élevez la bannière de Jésus sur votre pays. Élevez la bannière de Jésus sur ta ville. Que ce soit. Celui qui est en nous est plus grand. La bannière de Jésus-Christ est sur notre pays. La bannière de Jésus est sur la France. Maintenant, alors que nous avons prié les uns pour les autres, prions ensemble pour ceux qui ne sont pas ici, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour nos villes, pour notre pays, pour notre nation. Prononcez la bannière de Jésus sur la France. Alléluia. Chaque église, chaque pasteur dans ce lieu, Seigneur. Je prie pour chaque pasteur et église dans ce lieu. Au nom de Jésus, fortifie-les. Au nom de Jésus, donne-leur des armes. Bénis-les, fortifie-les, remplis-les. Mon Dieu, je prie pour chaque église. Je prie pour chaque église. Je prie pour Mathieu. Je prie pour Polo. Je prie pour Bertrand. Je prie pour Franck. Je prie, mon Dieu, pour Yvan. Je prie pour Patrice. Je prie, Seigneur, pour chaque pasteur dans ce pays. Chaque église, au nom de Jésus, je prie pour Thierry. Je prie pour chacun d'entre eux, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Je prie pour chaque ville et village. Je prie pour des signes et des prodiges. Je prie pour des miracles et des guérisons. Je prie pour des interventions divines. Je prie pour des miracles. Je prie qu'une nouvelle génération voit la puissance de Dieu.